Je demanderai maintenant aux intervenants de notre session sur l'impact, sur les impacts de la présence des femmes dans la magistrature, de bien vouloir nous rejoindre à table. Nous restons tous comme ceci dans la salle, puisque nous avons maintenant un petit temps de débat qui est prévu jusqu'à 18h. Ça nous donnera l'occasion éventuellement de croiser les questions et les réponses. Donc ceux d'entre vous, les intervenants qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Nous allons aussi peut-être, en attendant, faire circuler un micro dans la salle. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Merci, monsieur Comaille.
Oui, je veux bien poser une question sur... j'ai l'impression que par rapport à la question générale qui était posée, les femmes juges font-elles une différence? On n'a pas une question pleine de certitude. Et donc, je repensais à la communication passionnante, comme toutes les autres, mais qui m'a beaucoup intéressé sur les dissidentes à la Cour suprême canadienne. Et donc c'est une question plutôt d'ordre méthodologique, mais qui est peut-être très importante par rapport à la question générale qu'on se pose, c'est comment isoler en quelque sorte l'effet de la variable genre dans le travail que vous avez fait sur les dissidences. Est-ce que d'une certaine façon, pour isoler complètement cette variable genre, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler sur l'ensemble des positions dissidentes, y compris celle des hommes, c'est-à-dire et comment, par conséquent, pouvoir traiter de la variable genre par rapport à ce que peut-être l'influence, peuvent être les influences d'autres variables comme la trajectoire de carrière, la trajectoire politique, la trajectoire d'appartenance culturelle, etc. Donc, alors c'est pas une perfidie que je vous envoie. C'est une vraie interrogation sur. On a bien vu l'importance des dissidences aux femmes à la Cour suprême, mais est-ce que ces dissidences s'expliquent uniquement effectivement par le fait d'être femme, ou est-ce qu'on peut voir l'influence d'autres variables? On pourrait voir l'influence d'autres variables. Voilà.
Rebecca ou Marie-Claire?
Peut-être je vais essayer de dire quelque chose en réponse et Marie-Claire va essayer de me corriger si j'ai fait des erreurs. Et alors, peut-être je vais essayer un peu en anglais très lente pour que les interprètes puissent me trouver des bons mots en français. It's a wonderful question, and part of the answer on the dissent is that we think that part of what's happening in dissent is we're tracking a space and not a subject. So part of what's going on is that to understand women's dissents, we're needing to understand the relationship between the women and other positions. And so it is very tricky because you're not tracking something, you're tracking a relationship where two things at least are moving at the same time. The person who is in dissent because the other people are in a particular position. So sometimes it's not that the dissenter moves, it's that other people are mobile. So c'est une très bonne question. C'est une question de méthodologie qui nous occupe beaucoup. Et la chose qui est intéressante est d'essayer de trouver des façons de regarder des choses qui sont en train de bouger ensemble et avec les autres. So, c'est tout un... c'est un plaisir, c'est un pharmacon, je ne sais pas si c'est a cure and a disease, d'essayer d'étudier quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si c'est une réponse directe, mais nous sommes d'accord que c'est très difficile d'isoler le variable genre, comme c'est une variable.
Est-ce que ça fonctionne? Moi, je dirais, ça dépend, Jacques, quelle partie du travail, parce que sur la question qualitative, tout est le relationnel, donc la variable genre est celle qui est la plus difficile, évidemment. Il y a plusieurs variables, ça, on est avec toi. Au niveau quantitatif, ce qui était surprenant pour nous, c'est qu'on a simplement pris toutes les décisions de la Cour suprême du Canada depuis 82 et on les a identifiées par juge. Et le quantitatif, c'est la variable genre qui nous a pris par surprise, mais je devrais dire également, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans les dernières années, ce qu'on trouve, c'est que les juges québécois sont les plus dissidents. Puis, et leur taux de dissidence n'ont cessé de tomber. Donc, il y avait d'autres variables qu'on voit émerger, mais on n'a pas l'explication, parce que nous, ce qu'on trouve, c'est que le quantitatif, on peut lui faire dire n'importe quoi, nos chiffres sont trop petits, il y a toutes sortes d'éléments qui font que... Mais ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça nous fait poser des questions, ça nous ouvre des portes, c'est des clés, ça nous permet d'essayer d'aller voir, mais ça, c'est intéressant, pour quelles raisons? Puis ensuite, on va dans le plus... qualitatif. Mais au plan des chiffres, je dois admettre que quand on a commencé à travailler sur les chiffres, on est tombé en bas de notre chaise quand on a vu, on en parlait à la pause, Bertha Wilson puis Claire Leroux Dubé, on le savait. Mais McLaughlin était une surprise même pour elle-même. Alors, mais après, il y a toutes sortes d'autres éléments. C'est avec qui sont dissidents, on appelle ça les amis des juges. On a fait plein de permutations. Puis la question après, quand on va au fond, là, tout est relationnel et on peut pas on peut très difficilement extraire cette partie-là. Mais les chiffres, pour nous, ne sont pas des réponses, mais des questions.
Thanks. Monsieur Léonard has given us a nice overview on several explanations we can have why there are differences in judgments between women and men. I hope I haven't missed on something. I might add three other explanations. There are still more. Well, we have research from Israel and also from Germany that in rape cases, cases of violence, women passed strict sentences, and then everybody would have expected them to have empathy with the victim. And then an explanation in these cases can be that women want to counteract the expectation which is geared towards them, that it is expected that they are strict in their sentences and that then they pass a more lenient sentence. Again? So, okay. Cases, rape or cases of violence and okay, that in these cases it is expected that women pass strict sentences, but it may happen that they pass lenient sentences, and then it may be that they counteract the expectation which is geared to them. So just to add another explanation. And then another case. We have research in Israel, and we have that in Germany too. In Germany it was about murder cases in the regional court of Saarbrücken. And that's research from the 90s. It turned out that if a female prosecutor was involved, it was not a very big effect, but it was there. When a female prosecutor was involved, then the sentence was lower. And if a female advocate was involved, the sentence was higher. So you might have expected it the other way around. And then an explanation could be that both of them haven't achieved their professional aim. Higher sentence for the prosecutor, lower sentence for the advocate. And that's a question about the authority you have in the courtroom. And it's maybe have something to do with communication in the courtroom. And then one effect, there's quite an American literature about it, about a panel effect. And the literature circles around sexual harassment cases, but there's also some on race harassment cases. And in these cases, it turned out that the men on the panel oriented themselves towards the women on the panel, like giving them the competence in the case and expecting them to be the competent persons, and therefore, well, trying to decide with them. And there are more explanations, but these are quite striking ones, I think. And thank you for all what you've listed up.
Alors, il y a, effectivement, alors déjà, c'est qu'on voit qu'on pourrait faire varier un ensemble de contextes et on n'obtiendrait pas exactement la même chose. Et je pense que notamment, en fonction de la trajectoire des juges, selon le moment où ces juges sont à quel niveau de leur carrière, il n'y aura pas du tout la même manière de réagir. Dans l'hypothèse que je soulevais tout à l'heure, et d'ailleurs ça me faisait penser justement à cette magistrate dont vous parlez qui était très dissidente et puis qui l'est beaucoup moins après. Et on voit qu'il y a un effet aussi qui est lié à la trajectoire. Et par rapport à ce que je disais justement sur cette hypothèse, qui reste à vérifier, selon laquelle les femmes, quand elles sont dans les fonctions, quand elles sont dans les fonctions du parquet, quand elles sont procureures, elles se sentiraient obligées de surjouer le rôle de procureur, parce que comme si et ce qui est certainement d'ailleurs peut-être aussi dans leur expérience au quotidien, qu'elles sentent cette obligation de devoir se justifier d'être à leur place. Alors, ce qu'on peut aussi se demander, c'est justement une fois qu'on monte dans la carrière, qu'on gravit les échelons, est-ce que c'est toujours les mêmes questions qui se posent ? Est-ce que quand on débute sa carrière, est-ce qu'on n'est pas justement plus tenu de montrer qu'on a sa place là où on est, et que ça serait moins le cas après ? Ce qui fait que, par exemple, d'ailleurs, dans mon étude, alors ça je ne l'ai pas forcément indiqué, mais il faut voir qu'il y a une différence qui est assez forte entre les caractéristiques des magistrats du parquet, qui sont les procureurs, les femmes procureurs sont de jeunes débutantes dans de très nombreux cas. Enfin, c'est surtout vrai dans les grandes juridictions, mais dans les plus grandes juridictions, ces procureurs ne sont pas simplement ces femmes procureurs ne sont pas simplement ne sont pas simplement des femmes dans les fonctions de procureur, mais ce sont aussi de jeunes femmes. Et c'est-à-dire que c'est peut-être aussi un contexte particulier de début de carrière qui favorise justement ce sentiment de devoir faire ses preuves en particulier. Après, ce que je voudrais, c'est qu'il y a aussi certainement d'autres variables qui jouent, parce que finalement, dans l'hypothèse que j'avais défendue tout à l'heure, ce que je n'ai pas forcément rappelé, c'est que, même si ça a été dit aujourd'hui, c'est que les femmes dans la magistrature sont généralement encore issues de milieux encore plus élevés que les hommes, en tout cas dans des proportions encore plus élevé, comme si c'était comme s'il fallait justement ce qui traduit le fait que pour être une femme il y a des difficultés particulières et ce qui fait que du coup c'est pas exactement le même profil, c'est-à-dire qu'en termes d'origine sociale entre les hommes et les femmes. Et on peut se demander si finalement en fait derrière la variable aussi de ce qu'on pense être le genre, en fait c'est pas aussi d'autres variables, c'est-à-dire ou plutôt du coup indirectement l'effet du genre, c'est-à-dire par l'appartenance de sexe il est plus difficile d'accéder à des fonctions importantes, donc il est plus difficile pour les femmes d'arriver dans la magistrature, donc les femmes qui y sont des femmes qui sont de milieux encore plus élevés, et ce qui pourrait aussi expliquer indirectement en fait les différentes manières de juger.
Well, my question is addressed not to any specific speaker, but to this workshop, to the symposium. And that is to the title, International Symposium, Reality, Impact, and Justification. We've been talking about it, and I'm raising this question at the end of the symposium. My question is that why do we want women to be on the bench? Do we want them just to have greater representativeness? Do we believe, as I have been hearing various speakers, that women behave exactly like men judges? Their gender, their identity, their sexuality does not bring in any change. So do we mean to say that all their biographical experience undergoes a metamorphosis the moment they sit in in the bench? Do we want to say that their psychological, sociological upbringing undergoes a metamorphosis? Do we want to say that we want to have women just for the sake of representativeness? Then what will happen to multicultural societies where there are multiple ethnicities, multiple languages, multiple religions, and a case of India, for example, or America? And in our case, we have multiple castes, so we should have all categories sitting in the bench? That's not possible. Yes, there should be stronger reason. And I think this idea of representativeness, well, if I may be permitted to be so blunt, is ridiculous. It has to deal with a different way of looking at the world. And if you are denying that to a woman, then I think you are missing something very sorely, even after debating it for two days. I was very happy the way today Laura Healy had made a presentation. And I think we have to get a response to this after having spent 2 days of so many scholars, judges, and students, that why should there be a woman? Is it only representativeness, or it brings in qualitative change at the perspective of judiciary? Thank you.
Thank you. Is that on? Thank you for that really kind remark. I think that this is also something that, in my response, something that I wanted to say to the first question about do women judges make a difference? And I think one of the dangers in this area is the search for a definitive answer, and to say that there is no answer at all unless we can have a 100% watertight, scientifically sound definitive answer on what the difference or what the impact or what the effect will be, and unless it will hold tight across every case. I think that has a lot to do with the methodologies that we use to approach the subject. So as I was saying, that interview techniques have allowed a little bit more of the areas of grey to filter in there. It reminds me of that Einstein quote that not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. So I think that to your statement that, you know, yes, I was saying that in some cases where women will have an experience that may differ from that of their colleagues on the bench, then it's important to have that woman's experience there. But I was not saying that that will necessarily be the case for every woman in every case that they hear. And I think the representativeness, the point that you were making, particularly India, is a nice example of the number of different ways that we can break down our identity. That when we talk of judicial representativeness, I think we do so in a way that's very different from, say, political representativeness. A judge is not there to stand up for a particular group of people, or to necessarily always carry the flag of a particular social movement. But we talk about reflectiveness, And the reason I think that we talk about women's reflectiveness primarily is because women are half the world. And so it's an obvious place to start. That does not break off other areas of reflectiveness as being important. But I think that just by virtue of being 50%, that it's a place that we want to start being reflective. So I don't know if that answered or did what, but thank you for the comment.
Je peux ajouter un tout petit mot sur cette question-ci, mais tout petit. Je reprendrai simplement ce qu'a dit Françoise Tulkens. Ce n'est pas... nous ne devons pas légitimer la présence des femmes. Ce qui est anormal, c'est leur absence. Et je crois que c'est ce que vous venez de dire. La société est comme ça. Et si cette société restreinte et cette société de pouvoir, qui est la magistrature, n'est pas à l'égal de la société, il y a un creux inexplicable.
So I have a question for Erica, which is in some ways similar to the question that I think was just asked, but in some ways quite different. And that's, how do you write a feminist judgment? Meaning, you said, oh, we looked at intersectionality because we looked at the foulard issue or the scarf issue, but how do you... there are so many strands of feminism in the way, same way as there are many different women in the world with different opinions. So how do you, what is a feminist judgment? How do you conceive of that?
Well, I think there's at least one or two people in the room who are far better qualified to answer what a feminist judgment is. To me, what I can tell you is how we did it in our project. I certainly wouldn't want to give the impression that there is a definitive answer, that we had adopted very different views, and certainly one of the things in that the workshops were about was debating feminist perspectives on the issues at hand, and certainly there are a number of judgments that I disagree with quite strongly from a feminist perspective and think that they've come to the wrong conclusion as a feminist, although they've been written as a feminist judgment. We identified within it a number of characteristics of a feminist judgment. Not all feminist judgments will have these, but they are things like asking the woman question. So looking to see whether within a particular case that question's been asked and exploring the ramifications of doing that.
Sorry, what's the woman question?
Well, for me, it was looking to see, so when you have something that's presented as neutral and as if it's not raising a particular issue, you're then saying, well, could it? Does it? There are other times that sort of depend, going on from that, there was sort of some of the cases, the way in which they were feminist was that they told the story in a different way. So there's a sort of way in which certain facts were decided and so on. I'm now floundering because there were 8 characteristics, which I now can't remember, but are in the book that I have in my bag underneath my seat about that far away, which is rather disappointing. So I can give you the other 7. They involved, one of them was using feminist literature, but that was like the least important, but is the only one I can remember now. But we did look for various characteristics, and you've put me on the spot that I've now forgotten our mantra. Can anyone help? Brenda? So. Oh, thank you.
Quelqu'un d'autre? Oui, Anne-Emmanuelle Bourgault.
Oui, moi j'ai une question pour Monsieur Martens, qui nous a donné un exemple dans l'affaire sur le harcèlement, de décisions différentes selon que le siège était composé exclusivement d'hommes ou de femmes. Alors ma question c'était, est-ce que dans sa pratique lui-même, s'est dit à un moment donné dans une affaire, tiens, est-ce qu'il a eu l'intuition, la conviction que l'issue de l'affaire aurait été différente s'il y avait eu plus de femmes ou plus de féministes au sein de la Cour. Et cette question-là, on amène une autre, c'est de savoir si c'est le cas, et s'il y a eu des moments où vous avez dit, vous avez eu l'intuition qu'en effet l'affaire aurait reçu une solution différente si les femmes étaient plus nombreuses ou si les féministes étaient plus nombreux. La question est de savoir si le fait que les juges de la Cour constitutionnelle puissent exprimer leur opinion individuelle, est-ce que ce ne serait pas une manière de permettre la résistance de l'intérieur? Vous avez dit que vous ne voyez pas vous dégager un mouvement du côté politique pour garantir ou pour assurer une plus grande représentation des femmes au sein de la Cour. Peut-être alors la possibilité de pouvoir exprimer une opinion individuelle et notamment des conceptions plus féministes de l'égalité pourrait être de nature à faire une forme de résistance ou de dissidence de l'intérieur propre à amener un mouvement en la matière. Voilà mes deux questions.
Je vais répondre très, très rapidement. À la première question, ma réponse pourrait être oui, sans plus. Mais je vais quand même ajouter un mot, à condition que ce soit des bonnes féministes. Parce que j'ai déjà regretté qu'il n'y ait pas plus d'hommes féminins. J'ai expliqué que les valeurs féminines peuvent être d'un côté ou de l'autre. Donc c'est vrai qu'il m'est arrivé à la Cour de regretter qu'il n'y ait pas plus de gens qui pensent comme moi. Deuxièmement, les opinions dissidentes, là c'est une question sur laquelle on s'est beaucoup penché. Je crois à la vertu absolue des opinions dissidentes. Je crois que ce n'est pas possible dans une société divisée de croire encore que la justice se rend par une seule voie et généralement le plus brièvement possible. Donc c'est totalement obsolète ce respect sacerdotal, ecclésiastique, a on écrit, de la voie unique de la vérité. Ceci dit, si c'est sur ma cour, enfin ma scie devant cour, excusez-moi qu'on m'interroge, je pense que ce n'est pas possible. Parce que la Belgique est un pays divisé, est un pays où on n'aboutit jamais à rien que par des compromis. Le courage des hommes étant ce qu'il est, je crois qu'on n'aboutirait pas à des compromis s'il y avait des opinions dissidentes personnalisées. Mais, et ça je l'ai écrit il y a à peu près 2 ans, mais je me suis aperçu que Gustavo Zagrebelsky en Italie l'a écrit également, on pourrait enrichir les décisions en mettant les opinions dissidentes, l'opinion de la minorité, dans l'arrêt sous forme anonyme. Parce que alors là, on n'aurait plus ce problème de violer le secret de ce qu'on a dit au délibéré, mais on aurait l'enrichissement dialectique de tout ce qui s'est dit au cours des débats. Vous n'imaginez pas la richesse des projets d'arrêt initiaux, des amendements, des contre-projets, des notes, de tout ce travail dialectique qui se fait au sein de la Cour et dont il ne reste qu'un arrêt qui est un compromis, c'est-à-dire d'une faible valeur littéraire, et qui ne renseigne en rien sur la complexité des problèmes qu'on a traités. Donc je suis pour des motivations infiniment plus détaillées, reprenant, comme à la Cour suprême des États-Unis d'ailleurs, l'opinion de la majorité, l'opinion de la minorité, évidemment des opinions qui pourraient être dissidentes, ça enrichirait intellectuellement le débat, ce serait doctrinalement passionnant, mais ce serait anonyme, et je crois que dans un pays comme la Belgique, il faut que ça le reste.
Hi, I'm Judith Resnick. I'm struck in the conversation about the ambitions of the projects, the counting, not counting, and that we're a little caught by the intersections of different kinds of challenges. The problem of doing research on litigation and adjudication is that it's a multivariable phenomenon in which part of it depends on what cases are brought and reported, with what forms of research decided by, with what forms of resources, investment by the parties to raise questions if you're in the common law system at least, and the relatively small number of data points to be analyzed, that there are at least in many, I understand that there are many judgments that can be analyzed possibly in the civil law systems with so many more women rendering them, although I don't know the level of numbers of justifications and reasoning to be parsing, because the common law system has potentially more of that. So the For example, there's a group of researchers, and Lee Epstein is one of them in the United States, who tried to understand, and I think there was a reference to some of her work before, the effect of women on judgments, and decided that she had to look not just at the effect of a judgment by a woman, but the effect on the panel or the interaction among decision makers. And after a lot of resources that she and her colleagues expended, identified 13 different categories of cases, and upon identifying them, found one instance, one subcategory, which was a gender-coded subcategory in which there was sex discrimination was the issue, employment discrimination, in which a woman's presence on a panel could, in some instances, have an effect. And when those of us who sit in the States read her research, we say, yes, but that was that group of those 25 women who were then the appellate judges, and now there's actually another group of appellate judges who are women who might actually disprove that effect or have the negative effect. So one aspect of the conversation is, I think, the difficulty of doing social science research on courts writ large, pun intended, writ large here. And the writ large part is that it's just a very complicated phenomenon to actually try to make a claim that is both true, potentially interjurisdictionally, and then intertemporally across time, that we might then just be studying a particular moment with a particular configuration of a subset of people called women and men. Now, I take it that nonetheless, it's extremely useful to try to do this, but it's for a different kind of intervention, which is to talk some about the degree to which law has assumed itself, or some legal systems have assumed themselves, to be egalitarian or not have to worry about being egalitarian. And so the marking of trying to think about the impact of gender on judgments is an effort to try to think about the degree to which law substantiates hierarchical relationships or can intervene, which gets us to the question of another form of intersectionality, which is the relevant data points are not only women and men, but actually also other forms of hierarchical subordination. And therefore, the project becomes a project of trying to undermine law's claim to be disengaged with the question of gender, and that one is using the identities of the judges and the concept of a feminist judgment project to dislodge the image of the otherwise unencumbered legal space, which is a different kind of intervention than a claim about the truth of whether the judgments themselves are to be claimed to be feminist or that women produce a different set of reasons. And I guess the kind of question is a question about the ambition. I mean, the ambitions of the seminar is to talk interjurisdictionally, and yet the variables of the interjurisdictional conversation need to be put into place too, which is, I take it, the judgments and opinions play different roles in our different systems at different levels of the courts, and we haven't much examined who are the audience for which levels of judgment, whether they come. There was the panel on dissents, obviously, brings into the papers the question of whether there's a convention of multiple voices or single voices, and then how you identify them. And I guess the part of the question is there some claim in the process level that the more speakers, the more you can dislodge the presumed neutrality? So there's an interest in saying we want to get more judgments put forth. I'm just trying to understand moving forward, once one uses the presence of the woman as judge to underscore the complexity of a legal project claimed to be egalitarian when it's not, what one does then to forward the egalitarian project. And my question to the panelists is, what's the research that comes next, or the intervention that comes next, that would forward that agenda?
Une question tout à fait ambitieuse et pertinente qui nous mène dans une prochaine étape de la recherche, donc comment vraiment assurer
un droit et une justice plus égalitaires, et repenser aussi la question de la culture juridique, des rapports de pouvoir plus largement. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut contribuer à... On dirait qu'on a une piste pour un prochain colloque. Rebecca, thank you.
La question de juridiction nous intéresse beaucoup parce que, évidemment, dans quelques systèmes civilistes, pas dans tous les systèmes civilistes, il n'y a pas une tradition de dissidence qui est publiée. Mais nous pensons que la dissidence est un espace très important pour la justice et que l'une des questions pour nous est de trouver des façons entre des juridictions de mettre la question de dissidence en relief. Par exemple, s'il n'y a pas de dissidence judiciaire, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de dissidence, c'est les sujets de justice dans ce pays, mais peut-être il y a une façon d'employer des outils de voir comment des questions de dissidence peuvent être discutées dans une façon différente pour mettre notre attention sur la justice, point. Et peut-être la justice va demander... quelque chose comme le parité dans quelques instances, mais pour nous au Canada, quand nous avons les discussions comme ça avec des communautés First Nations, où nous avons beaucoup de First Nations au Canada avec beaucoup de systèmes légaux, je m'excuse pour mes collègues First Nations, mais différents. So, de temps en temps, ce n'est pas juste de dire qu'on doit avoir la parité, parce que dans certains contextes, les arguments qu'il y a les compétences ou des areas, les façons de régler, maybe that's important for justice as well, but the attempt, je m'excuse si j'essaie de dire des choses en tout cas, mais la dissidence est importante pour chaque tradition, et ce n'est pas de trouver la façon de mettre la dissidence dans un... mais simplement de mettre en conversation les formes de dissidence, de trouver si la dissidence peut être le projet pour nous, pour trouver la justice dans beaucoup de contextes. Le projet qui est à suivre, peut-être d'arrêter de focus sur simplement qu'est-ce que nous sommes, mais qu'est-ce que nous travaillons ensemble dans des projets de justice, d'apprendre des choses des autres et de trouver des outils où il est possible.
Merci. Peut-être une toute dernière question, et puis on permettra de conclure. Merci.
Une réponse.
Super.
Des commentaires. In response to this question of, comparing the different kinds of jurisdictions and how and whether justifications differ depending on the jurisdictions, I think one argument that can be made when it comes to international courts is that they're not embedded in a system of checks and balances the same way that domestic courts are, for the most part, with some variability. So I think the argument for representativeness as such is stronger at the international court level, because there isn't the same political, that there are differences in, it's not embedded in a system of checks and balances in the same way. And if you believe, despite the fact that, under the ICJ statute, cases don't establish precedent for further cases, if you believe nonetheless that they do, in fact, then what the ICJ is doing or other international courts are doing is unchecked lawmaking in some instances. And so I think there is an argument that the role of the judge at the international level requires
more representativeness for legitimacy than at the domestic level. And I guess one question to raise would be whether there are differences in the act of judging and the role of judging. And I think Adelaide talked about this in her original presentation. But if there are fundamental differences in the role of judging in the common law versus civil law system, which make representativeness more or less important in those two systems.
Now we will give the floor to Baroness Hale and to Madame Suzanne Baer. Thank you very much for the conversation. It is a nice one.